France Culture. Les matins de France Culture. Jean Lemarie.
Voici maintenant la question du jour, Marguerite Caton. Et Marguerite, l'impact écologique de l'intelligence artificielle, bonjour à vous.
Bonjour Jean, bonjour à tous. Je suis en compagnie d'Anne-Laure Ligoza, professeure en informatique au laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique et à l'École nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise. Anne-Laure Ligoza, vous êtes spécialiste de l'empreinte environnementale du numérique et tout spécialement de l'intelligence artificielle, un enjeu de taille à l'heure où les logiciels d'IA envahissent le quotidien de tout un chacun. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu ce matin. Commençons par un point de méthodologie. Peut-on isoler les utilisations de l'intelligence artificielle de celles plus larges du numérique ?
Alors effectivement, c'est un petit peu compliqué pour deux raisons. D'une part parce que dans le numérique, il y a effectivement de l'IA, mais c'est pas forcément simple de séparer la partie IA dans le numérique. C'est-à-dire que par exemple dans les data centers, vous allez avoir plein de choses qui servent à l'IA, mais vous allez avoir plein d'équipements qui servent à autre chose aussi. Et inversement, l'IA, elle va être présente partout et pas forcément dans des secteurs qui sont que numériques. Donc c'est compliqué d'arriver à vraiment englober tout ce que l'IA va avoir comme impact et comme effet d'un point de vue environnemental sur la société.
Si on prend donc seulement le secteur du numérique qui à la fois l'englobe, mais en même temps n'en dit pas tout, est-ce qu'on a une idée des chiffres d'émissions de gaz à effet de serre ?
Oui, alors le secteur numérique, au niveau mondial, il y a une méta-étude il y a quelques années qui a estimé que c'était entre 2 et 4% des émissions de gaz à effet de serre mondial. C'est pas du tout négligeable, c'est de l'ordre d'un secteur un petit peu classique, c'est quelques pourcents d'émissions au niveau mondial.
J'ai lu qu'en France, alors ce sont les chiffres de l'ADEME, et oui, c'est quand même assez compliqué de réduire à une échelle nationale une utilisation du numérique, mais on est à 4,4% de l'empreinte carbone. Et ce que je trouve intéressant, c'est que l'ADEME explique qu'on est un peu moins que les émissions totales du secteur des poids lourds. Donc en effet, voilà, oui, c'est pas négligeable et on a beaucoup d'actions qui sont faites en direction du secteur du transport et du transport des poids lourds. Et pour l'instant, on voit peut-être pas grand-chose en ce qui concerne le numérique.
C'est toujours compliqué quand on parle des émissions de gaz à effet de serre parce que nécessairement, dès qu'on découpe un secteur, ben, on va se retrouver avec de l'ordre de quelques pourcents. Donc quand on donne ces chiffres-là, on a toujours l'impression que c'est négligeable. Ça veut pas du tout dire que c'est négligeable. Ça veut simplement dire que nécessairement, quand on répartit les émissions entre secteurs, ça donne quelques pourcents.
Pour en revenir à l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous observez quand même de propre à cette nouvelle révolution informatique du point de vue environnemental ?
Alors, il y a une spécificité de l'intelligence artificielle qui fait qu'on s'est intéressé à cette empreinte environnementale depuis quelques années. Alors, à chaque fois on parle d'intelligence artificielle, je tiens à préciser pour les gens qui font de la recherche, notamment en intelligence artificielle, c'est une toute petite partie de l'intelligence artificielle dont on parle là, qui sont la partie d'apprentissage et même plus précisément d'apprentissage neuronal et même plus précisément maintenant c'est l'IA générative. Donc c'est tous les systèmes qu'on utilise actuellement comme ChatGPT, etc. Mais la raison pour laquelle on s'est intéressé à ça, elle est un petit peu double. Alors, il y a une première raison qui est que les entraînements, donc la création des modèles d'IA, ça nécessite d'utiliser des centres de calcul pendant plusieurs mois en général. Et donc, c'est des quantités de calcul qui sont énormes. Donc ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles on s'est intéressé. Et maintenant, avec tous les outils d'IA grand public qui sont sortis, il y a toute la phase de déploiement qu'on appelle inférence, mais qui est toute la phase où les utilisateurs l'utilisent. Donc quand vous faites une requête à ChatGPT, ça consomme de l'énergie. Et étant donné que le nombre d'utilisateurs a complètement explosé avec les outils grand public, on se retrouve avec un impact aussi qui est très important du côté du déploiement. Donc il y a ça, il y a le fait que l'IA pose des questions un petit peu spécifiques parce qu'elle requiert énormément de calculs et pendant la création des modèles et après pendant l'utilisation. Et puis il y a une raison un petit peu différente aussi, c'est que l'IA elle est souvent vue comme quelque chose de positif pour la transition. Il y a énormément de travaux, de rapports, etc. qui expliquent comment l'IA peut être utilisée par exemple pour optimiser la consommation des bâtiments, pour mieux détecter les feux de forêt, etc. Mais sans se poser la question des impacts négatifs, donc c'est vraiment important de réfléchir à comment est-ce que ça évolue, cette empreinte de l'IA.
Du point de vue des ressources, alors que vous avez parlé du calcul, de cette gigantesque quantité de calcul, et puis du déploiement, de toutes ces requêtes qui augmentent, ça se traduit par quelle utilisation de ressources ? On pense immédiatement au centre de données, ressources en eau, en foncier, en électricité, c'est ça le principal ?
Ouais,
le problème de l'IA environnementale, c'est ça ?
Il y a plusieurs problèmes, et en général, on voit ça sous deux dimensions. Donc, il y a la dimension qui est du cycle de vie des équipements. Donc là, quand on parle par exemple des data centers et du calcul, on est dans la phase d'usage des équipements, c'est-à-dire c'est le moment où on utilise les serveurs, mais ces serveurs, ils ont aussi été produits et puis ils ont aussi une fin de vie. Donc en fait, ça, c'est quelque chose qui est à prendre en compte aussi et qui n'est pas du tout négligeable. Dans le cas d'un serveur, c'est assez important, la partie fabrication. Même si Pour des serveurs d'IA, c'est un petit peu moins vrai parce que ça dépense tellement d'électricité quand c'est utilisé que c'est un petit peu moins vrai, mais c'est quand même pas négligeable. Et puis, l'autre dimension, c'est les différents impacts environnementaux. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle beaucoup d'empreinte carbone parce que c'est là qu'on a le plus de chiffres. Donc, c'est le plus immédiat, même si on a des grosses difficultés à avoir des données, mais c'est quand même là qu'on a le plus de chiffres sur l'empreinte carbone. Mais vous l'indiquez, donc par exemple, au moment de la phase d'usage dans les data centers, on va faire des grosses quantités de calculs et on a besoin de systèmes de refroidissement pour compenser toute l'énergie qui est produite par ces calculs. Et ces systèmes de refroidissement, ils utilisent soit de l'énergie également, soit de l'eau. Et donc, on a des consommations d'eau liées aux data centers qui sont importantes aussi. Et d'ailleurs, quand on regarde les rapports environnementaux des entreprises du numérique, on voit que les consommations d'eau ne font qu'augmenter, comme les consommations d'électricité d'ailleurs, ce qui est un petit peu inquiétant.
Est-ce qu'on pourrait concevoir, Norligoza, des systèmes d'intelligence artificielle qui soient moins gourmands en énergie ?
Alors, on peut tout à fait. Il y a beaucoup de travaux qui se font sur l'optimisation de systèmes d'intelligence artificielle avec trois types d'optimisation. On peut faire de l'optimisation algorithmique, c'est-à-dire qu'on va optimiser les réseaux de neurones pour qu'ils apprennent de façon la plus efficace possible. On peut avoir de l'optimisation matérielle, c'est-à-dire les cartes graphiques sur lesquelles tournent les calculs. On peut optimiser ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui est le cas. Les cartes sont de plus en plus efficaces pour une même quantité d'énergie. Ça va faire de plus en plus de calculs. Et puis, on peut avoir une optimisation énergétique. Donc, typiquement, utiliser des énergie renouvelable ou de plus en plus bas carbone en tout cas. Ce qu'on a montré,
c'est une bonne nouvelle, ça.
Ça pourrait être une très bonne nouvelle. Le problème, c'est ce qu'a montré mon doctorant Clément Morand, c'est que ces optimisations-là, en fait, elles sont complètement compensées par un effet rebond, c'est-à-dire plus on optimise, plus on utilise. Donc, ce qu'il a montré, c'est que la création des modèles, leur empreinte environnementale ne faisait qu'augmenter au fil du temps. Alors que pourtant, on a plein d'optimisations. Il y en a des gains d'optimisation qui sont énormes, qui sont avec des facteurs 10, 100, 1000. Mais comme on utilise d'autant plus les ressources, en fait, l'empreinte finale ne fait qu'augmenter.
Vous nous avez dit que l'IA était censée permettre dans de nombreux secteurs une optimisation des ressources. Alors, on pense peut-être à la filière agricole, le bâtiment, vous l'avez dit, différents secteurs industriels. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire si les ressources économisées valent le coût environnemental ?
Alors non, et c'est bien là le problème. C'est-à-dire qu'on a essayé de montrer un petit peu ça justement il y a quelques années dans un article avec des collègues. C'est-à-dire qu'on a regardé quelles étaient les évaluations environnementales qui étaient faites sur ce type d'application de l'IA. Donc effectivement, pour un bâtiment intelligent, pour optimiser la production d'énergie, etc. Et très souvent, en fait, ce que ça rapporte, enfin ce que l'IA permet d'économiser en ressources, n'est pas du tout contrebalancé parce que ça coûte d'un point de vue environnemental. Et c'est un petit peu la difficulté, c'est qu'on a relativement peu d'évaluation environnementale. Alors, c'est pas simple à faire, mais bon, il y a quand même des méthodologies qui existent et dont on pourrait s'emparer. Mais pour l'instant, c'est très peu fait.
Merci beaucoup, Anne-Laure Ligoza.
Merci.